Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent aux motivations de la course à pied et de la marche. Que sait-on des motivations de la course à pied ? Psychologie, sociologie, philosophie, chaque science humaine a une explication de ce qui nous pousse à courir. Faire du sport, c'est donc toujours un peu sortir de soi, mais au mieux se trouver, se reconnaître et élargir son champ de conscience. Ce qui est une possibilité, somme toute, autant spirituelle que physique de s'améliorer. Au premier marathon organisé en France en 1975, il y avait 130 coureurs inscrits. En 2025, ils étaient 59 650 à s'aligner au départ du marathon de Paris. En une génération, la course à pied est devenue un phénomène de masse. Du jogger du dimanche au pratiquant des grands trails extrêmes comme la Diagonale des Fous à La Réunion ou l'UTMB dans les Alpes, après quoi tous ces gens courent-ils ? Pourquoi cet engouement pour la course à pied ? Plusieurs explications s'affrontent pour tenter de cerner le phénomène. D'abord, retrouver ses racines. C'est la psychologie évolutionniste. Les humains sont nés pour courir, telle est la thèse défendue par un certain nombre d'auteurs. Born to the Run, de Christopher McDougall, Why We Run, A Natural History, de Bernd Heinrich. Ces thèses s'appuient sur l'argument que les chasseurs-cueilleurs devaient courir pour attraper leur proie. La chasse à l'épuisement pratiquée par plusieurs tribus consiste à épuiser des proies, antilopes par exemple, qui sont très rapides mais résistent mal à l'effort prolongé. Courir serait donc un instinct naturel. Les enfants adorent courir, inhibés par un mode de vie sédentaire et qui retrouvent aujourd'hui ses droits. Courir, c'est donc retrouver ses racines archaïques de chasseurs-cueilleurs. Se faire du bien, on est dans la psychologie de la santé. Nombre de personnes commencent à courir pour perdre du poids ou lutter contre le stress. La recherche du bien-être physique serait donc une motivation première pour se mettre à courir. Le sport a des effets bénéfiques tant physiques que moraux. L'activité physique protège de nombreuses maladies et de l'obésité, améliore le sommeil et procure un état de forme général dans la vie quotidienne. Sur le plan moral, la course, comme la marche, les 10 000 pas par jour, est un bon anti-stress. Enfin, des études montrent même que la course améliore les performances cognitives et contribue à réduire leur déclin avec l'âge. Le sentiment d'efficacité personnelle. Nous sommes en psychologie. Et le psychologue Albert Bandura a développé une théorie qui permet de comprendre ce qui nous pousse à agir. Le sentiment d'efficacité personnelle. Dans le domaine sportif, le sentiment d'efficacité influence aussi bien l'acquisition d'habiletés que le contrôle du stress, la confrontation aux chutes de performance, le niveau et la qualité de l'entraînement. Les autres coureurs sont souvent une sorte d'inspiration, de compétence et de motivation. Assister aux efforts persévérants et au succès de quelqu'un qui nous ressemble augmente nos croyances en notre propre efficacité. Pour acquérir un sentiment d'efficacité résilient, capable de faire face à des échecs, il faut avoir surmonté des obstacles par des efforts persévérants. La résilience s'acquiert également en apprenant comment transformer les échecs en source d'apprentissage. Courir avec et contre les autres. Nous sommes dans la sociologie, l'ethnologie du sport. La sociabilité est un puissant motif de la pratique sportive. Tous les pratiquants le savent. On maintient d'autant mieux une activité sur la durée que l'on n'est pas seul. L'entraînement régulier est stimulé par des effets d'émulation que sont les clubs, les sorties entre amis. Courir ensemble, c'est aussi l'occasion de parler, de se raconter, de rire, de s'amuser. C'est aussi l'occasion de se confronter et de se défier. Dans Les enfants d'Achille et de Nike, en 1995, l'ethnologue Martine Ségalin a décrit cette sociabilité des coureurs de fond, ces rituels, la griserie de la compétition, la convivialité des groupes de coureurs ou d'amis partageant la même passion. Se dépasser, nous sommes bien dans la philosophie de la course. La course à pied est une épreuve qui exige effort et souffrance. L'épreuve peut sembler absurde si on mesure l'effort au résultat. Aucun gain, si ce n'est symbolique, classement et record personnel, n'a de valeur que pour soi. D'où vient donc ce besoin de se faire du mal, pour atteindre des buts aussi dérisoires? Éthique de la performance propre à des personnalités ascétiques, volonté de puissance, héroïsation de son existence, quête quasi mystique du dépassement de soi. Philosophes et écrivains se sont interrogés sur les mobiles profonds de la course à pied. Il y a aussi une dimension existentielle dans la course, où l'esprit et le corps nouent un étrange dialogue, quand une part de soi impose à son corps de faire fi de la douleur et de la fatigue pour continuer à courir. Nous aborderons maintenant le cas des ultra-trailers. Nous sommes dans l'ultra-endurance. Pourquoi des êtres humains recherchent souvent la souffrance de manière inconsciente? On entre donc dans un territoire qui implique la douleur, l'excès et en fin de compte, la souffrance. Quels sont les effets sur l'organisme d'un marathon d'un 100 km ou d'un ultra-trail de 160 km? Atteinte musculaire et rénale, inflammation, hyperglycémie, de nombreuses modifications transitoires de paramètres biologiques ont été identifiées chez ces athlètes dans les heures et jours suivant l'arrivée. Qu'en est-il des globules rouges, ces cellules sanguines qui transportent l'oxygène des poumons vers les tissus et éliminent le dioxyde de carbone? Si les données sont moins fournies dans ce domaine, des anémies ou baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang ont été décrites depuis longtemps chez les coureurs de longue distance et sont le fait des destructions mécaniques des globules rouges liées aux chocs répétés des pieds sur le sol lors des appuis. Au-delà des facteurs mécaniques, les courses de longue distance accélèrent le vieillissement des globules rouges par des mécanismes d'inflammation et de stress oxydatif. Après un trail de 40 km, des processus de réparation des globules rouges sont à l'œuvre, mais ils semblent plus saturés chez ceux qui ont couru des ultras type Diagonale des Fous ou UTMB. Enfin, les ressorts de la performance en ultra, route ou trail, dépendent non seulement de la fatigue musculaire, mais de la fatigue perçue. Après 20 heures de course, les muscles extenseurs des genoux, par exemple, ont perdu 35 à 40% de leur force, ce qui n'empêche pas de continuer la course. Cependant, l'altération du fonctionnement des muscles locomoteurs et respiratoires augmente la perception de l'effort, qui est un facteur clé. La science de l'ultra-endurance qui s'intéresse à l'adaptation aux limites n'en est qu'à ses débuts. Il s'agit donc maintenant d'étudier cette adaptation permanente, passage de la route au trail et inversement. Si l'on prend un marathon couru sur le plat, on se trouve clairement dans une situation où la performance dépend de l'endurance de vitesse. On a souvent affaire à des coureurs très légers et des foulées très élastiques. Avec les spécialistes des trails et courses de montagne, on lutte essentiellement contre la gravité. Il y a toujours de bonnes facultés d'endurance, évidemment, mais cette fois-ci, il s'agit d'endurance de force. Les deux types d'endurance, vitesse et force, ne sont pas déterminés par les mêmes filières physiologiques et biomécaniques. On comprend mieux pourquoi le passage du marathon au trail, ou inversement, nécessite des adaptations. Lors du marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024, le parcours comportait 400 mètres de dénivelé positif avec des pentes à 13% qui ont fortement déstabilisé les spécialistes de l'endurance de vitesse. Aussi, les facteurs psychologiques, l'endurance mentale, interviennent aussi pour permettre aux coureurs d'utiliser ses capacités énergétiques. Qu'en est-il maintenant de la marche? La marche est souvent en guérison. Sa puissance réorganisatrice n'a pas d'âge. Elle procure la distance physique et morale propice au retour sur soi, la disponibilité aux événements, le changement de milieu et d'interlocuteur, et donc l'éloignement des routines personnelles, et elle ouvre un emploi du temps inédit, à des rencontres, selon la volonté de chance du marcheur. Détour nécessaire pour se rassembler, la marche apaise les tensions. Elle est propice à prendre enfin une décision qui se dérobait et retrouver le goût de vivre, la saveur du monde. On connaît le succès des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, bien loin pourtant des références directement religieuses, source de sacré, de ressourcement. La marche réenchante le monde. En découvrant l'environnement à pas et à hauteur d'homme, elle est aussi une manière de retrouver son centre de gravité. Exercice à temps plein de la curiosité, elle implique un état d'esprit, une humilité heureuse. Elle rétablit une échelle de valeurs que nos routines tendent à faire oublier. Le marcheur est nu dans son environnement, contrairement à l'automobiliste. Il se sent davantage responsable de ses actes et oublie difficilement son humanité élémentaire. La marche s'inscrit aussi dans un espace imprégné d'histoire, de social, de culturel, mais elle est surtout tellurique. Elle sollicite en l'homme le sentiment du sacré. Émerveillement de sentir l'odeur des pins sous le soleil, de voir la ligne sinueuse d'un ruisseau à travers champs, un étang avec son eau limpide au milieu de la forêt, un renard traverser le sentier ou un grand oiseau peupler le ciel de l'énigme de son passage. Pour la plupart, elle est la confirmation de leur goût de vivre, un moment d'intensité d'être. Les lieux possèdent parfois un don de guérison ou de rétablissement de soi. La marche procure un éloignement des anciennes familiarités, une disponibilité à l'instant. Elle plonge dans un état diffus de méditation, sollicite une pleine sensorialité. Si la souffrance a présidé au départ, elle se dilue au fil des pas. Remise en ordre du chaos intérieur, la marche n'illumine pas la source de la tension, mais elle la met à distance, favorise les solutions. Elle éloigne d'une histoire trop figée en remettant justement l'existence en mouvement. Elle est un remède à la mélancolie et au sentiment d'être à l'écart du monde. Elle est un sas pour disparaître de soi. Pour une durée plus ou moins longue, le marcheur change son existence et son rapport aux autres et au monde. Il est un inconnu sur la route ou les sentiers. En congé de son histoire, il laisse derrière lui son état civil. Son histoire, ses soucis, ses responsabilités sociales, familiales ou professionnelles, et il s'abandonne aux sollicitations prodiguées par le chemin. Cette suspension des contraintes d'identité, cette échappée belle, hors de toute familiarité, rendent propice la métamorphose personnelle. Ni la durée d'une marche, ni son cadre ne sont la condition de sa puissance de transformation intérieure. Elle dépend surtout de ce que l'individu fait de ce temps de disponibilité, d'ouverture. Le monde est dans les yeux de celui qui le regarde. Le maître et le moine cheminent dans la montagne et le maître demande « Sens-tu l'odeur du laurier ?»« Oui, » dit le moine. « Dans ce cas, je n'ai plus rien à t'apprendre, » dit le maître. Baigné de l'hospitalité qui semble porter ses pas, le marcheur éprouve une reconnaissance infinie. Il se sent à sa place, à l'intérieur d'un monde dont il sent combien il le dépasse mais l'accueille. Sentiment plein d'exister, rehaussé par l'autorité qui se dégage des lieux. Vivre possède enfin une évidence lumineuse. Des malades touchés par le cancer ou d'autres affections graves effectuent des marches en solitaire ou en groupe dans une sorte de prière aux éléments pour leur guérison. La douleur du deuil, de la séparation, perdent leur acuité sous l'immensité du ciel ou du paysage. En apprenant la mort de l'écrivain portugais Fernando Pessoa, Miguel Torga ferme son cabinet de médecin et s'enfonce dans les montagnes. Avec les sapins et les rochers, je suis allé pleurer la mort du plus grand de nos poètes d'aujourd'hui. Au fil de la progression, même si quelque chose s'est arrêté, le monde se remet en marche. Le mouvement inlassable des pas traduit l'impossibilité de rester en place, écrasé par la peine, arraché à soi-même. L'intériorité, la lenteur, la suspension du monde environnant sont propices à ce cheminement, à ces remémorations. Après la mort d'un ami, l'écrivain Charles Péguy marche à travers la Beauce, noyé dans l'océan de notre immensité peine. Sa marche est une prière qui le mène à la cathédrale de Chartres. Bien des dépressions ou des amertumes se dissolvent sur les routes. Marcher, c'est retrouver son chemin. Comme tout homme, le marcheur ne se suffit pas à lui-même. Il cherche sur les sentiers ce qui lui manque. Nous avons toujours le sentiment qu'au bout du chemin, quelque chose nous attend et qui n'était destiné qu'à nous. Une révélation est non loin de là, à quelques heures de marche, au-delà des collines ou de la forêt. Un secret dans l'imminence de venir à jour. Certaines routes laissent dans la mémoire une incise lumineuse. Tout chemin est d'abord enfoui en soi, avant de se décliner sous les pas. Il mène à soi avant de mener à une destination particulière. Et parfois, il ouvre enfin la porte étroite qui aboutit à la transformation heureuse de soi. Le monde est immense au-delà des murs de nos habitations et il n'attend que nous.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.